BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch.
Au sommaire des pionniers, cette semaine, on commence par le tête-à-tête avec un entrepreneur tout-terrain, un fervent défenseur de l'art de vivre à la française également, de la tech à l'hôtellerie en passant par le luxe ou le monde de la nuit. C'est un as du commerce, on le retrouve partout. Autodidacte, self-made man, fondateur en série, il nous partage aujourd'hui les clés de sa réussite et de son énergie débordante et communicative. Nous recevons Jean-Philippe Cartier.
Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Laure Wagner, fondatrice d'Un Kilomètre à Pied, un logiciel RH de recrutement interne qui réduit les trajets domicile-travail. Et ensuite, Calice Judy, fondateur d'Exode, une marque spécialisée dans la cosmétique bio et zéro déchet.
Et tout de suite, place au tête-à-tête avec Jean-Philippe Cartier.
Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête.
Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Jean-Philippe Cartier. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Fred.
Alors, tu es un entrepreneur tout-terrain. Tu es même surnommé le bébel des affaires. À 14 ans, tu montes ta première entreprise et tu ne t'es jamais arrêté depuis. Tu as monté ou financé près de 40 sociétés. Les qualificatifs qu'on entend à ton propos sont les suivants. Sidérant, hyperactif, honnête, intense, fidèle. Tes activités sont diverses, ou plutôt totalement éclectiques. Automobile, hôtellerie, restauration, technologie, dessin animé, ouais. Investissement, biotechnologie. On parle de la galaxie Cartier. Et l'on dit que quand tu investis, tu t'investis. Cette galaxie s'articule autour des qualités marquées, de tes qualités marquées, l'art de la débrouille, premièrement. La conviction profonde que lorsqu'on veut, on peut. Un amour sincère de la France qui te pousse à réveiller notre beau patrimoine et à le mettre en valeur.
Belle introduction.
Et voilà, et c'est que le début. Alors, merci de venir aujourd'hui dans Les Pionniers. Tu sais que nous, on s'intéresse aux coulisses de ton parcours, à tes émotions, à tes apprentissages sur la route. Je suis curieux, on est tous curieux de comprendre ce qui se passe dans ta tête, ce que tu penses quand tu fais tout cela. On va essayer de comprendre ce qui te motive. Et on va se mettre dans la peau aujourd'hui de Jean-Philippe Cartier. On aura une exploration qui sera agrémentée d'informations et d'illustrations de Rebecca qui viendra ici en plateau. On commence par une exploration de ton parcours. Alors, tu es né en mai 1975.
Gémeaux.
À Paris, c'est cela, d'un père chirurgien et d'une mère infirmière anesthésiste. Dès ton enfance, on remarque deux choses chez toi, ton énergie débordante et ton sens des affaires déjà aiguisé. À 14 ans, tu t'intéresses aux jeux vidéo, mais pas comme tous tes copains, pas comme on le croit. Tu nous expliques ?
Ah là, tu parles du fait que je vendais des jeux vidéo, oui.
C'est non, ça, non, parce que c'est... tout le monde s'intéresse aux jeux vidéo à cet âge-là, mais toi, différemment.
C'est un bon souvenir parce que j'étais pas passionné par les jeux vidéo, mais j'ai vite compris que c'était l'époque, on est à peu près de la même génération, des Nintendo, de Sega, Mega Drive, j'ai encore des souvenirs, et c'était un peu les discussions des copains qui achetaient des jeux. Avec mon ami de l'époque, Michael Azoulay, on avait réussi à trouver un système pour importer des jeux du Japon. Il n'y avait qu'un problème, c'est qu'il n'y avait pas la doc en français, n'était qu'en japonais. Je me rappelle encore de ce problème. Il n'y avait pas l'internet dont Google ne nous permettait pas de traduire de la manière la plus simple. Donc je te passerai des détails, mais on a réussi à vendre un certain nombre de jeux qu'on importait qui avaient plus value jusqu'à se faire exclure de l'école. Parce qu'un jour, le directeur a convoqué ma mère en disant « voilà, ce n'est pas encore un marché, c'est une école, votre fils est en quatrième ou en troisième, je ne sais plus, donc il faut que ça s'arrête ». Voilà. Donc j'ai quand même après pris le pli et vite compris qu'il fallait que j'aille faire du commerce plutôt que je traîne trop sur les bancs du lycée où finalement j'ai plus envie de commercer.
Et donc depuis cette première expérience, l'entrepreneuriat ne t'a plus jamais quitté, Rebecca ?
Vous avez donc arrêté l'école niveau bac. Vous vous êtes senti très rapidement entrepreneur alors que vous n'aviez aucun modèle d'entrepreneuriat autour de vous, dans votre écosystème. Vous regardiez toutes les émissions d'économie, de business. Vous aviez une envie très forte de réussir et de créer votre propre histoire. Et vous avez monté votre premier cabis à 17 ans, puis 37 en tout, avec un intérêt très fort mais très large, de l'hôtellerie au digital en passant par la vente de voitures avec Autoreflex que vous avez monté en 98. Puis la bascule a eu lieu dans les années 2000 avec la création d'H8 Invest, qui comporte une quarantaine de sociétés, des hôtels, de la restauration, du fooding, du digital, et devenez donc un entrepreneur et un investisseur qui s'investit lui-même, avec toujours et un même but, être utile.
C'est assez précis. Je ne peux rien rajouter, vous avez parfaitement raison, que c'est ma vie presque mieux que moi-même. Mais...
Alors la nébuleuse Cartier est vaste. On va commencer par le début, la tech et les voitures avec Autoreflex en 2000. Comment t'es venu l'idée ?
Très simple. Après les jeux vidéo, je suis passé à un plus gros modèle. Je commençais à vendre des voitures d'occasion en me servant de la Polo de ma maman que j'ai vendue. Je lui ai dit, t'inquiète pas maman, t'en auras une plus belle dans 15 jours.
Et tu l'avais vendu. Prévenu quand même, oui.
Je l'ai gentiment prévenu, mais j'ai une maman que je salue, qui est formidable, et donc accepté d'entendre toutes mes envies, même un peu saugrenues. Et donc, je vendu une voiture en essayant de gagner une petite plus-value. Et puis, j'en ai revendu une deuxième, puis une troisième, puis une cinquième. Bon, à l'époque, pour faire ça, il fallait la Centrale des Particuliers, pour ceux qui se souviennent, qui était un journal où il fallait plusieurs semaines pour diffuser des annonces. C'était le tout début du digital, c'est pas à toi que je vais t'apprendre ça, pionnier absolu. Et au final, j'ai dit, tiens, à un moment donné, il y a de la place pour un média digital qui permettrait de mettre une photo, une annonce en ligne en 3 secondes. Alors à l'époque, pardon, mais j'essaie de faire court, mais le modem, impossible de charger une photo ou une image en...
Ah
voilà, 48 ans, donc on se souvient bien, c'était, oui, 92, dans ces années-là, je crois. Et à partir de ce moment-là, on monte autoreflex.com avec... pas grand chose, un PEL ou un livret A, je sais plus quoi. Et au final, on part du principe qu'on doit digitaliser un peu ce métier de la petite annonce. Et on développe une entreprise que je revends finalement 8-9 ans après au groupe Axel Springer et Mondadori.
Et au départ, l'idée t'était venue en allant aux US, je crois.
Alors l'idée m'était venue, il y avait absolument, j'étais en voyage. J'avais rejoint un copain vers 18 ans qui lui était étudiant, bon bref, et pendant ce moment-là, c'était encore une fois les balbutiements d'Internet, et Autobytel, qui était un peu l'équivalent aux États-Unis, qui n'existe plus aujourd'hui, et m'a donné cette idée, et je dis, il faut absolument monter un média digital qui permet un média d'annonce qui permet de diffuser, donc après une galaxie d'aventures également pour monter cette entreprise. Et puis 7000 clients plus tard, l'arrivée de la DSL a changé nos vies, puisque les gens qui gentiment me trouvaient un gentil vendeur ont commencé à trouver que c'était utile. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à faire vendre des voitures, donc ça a commencé à fonctionner.
Et alors, tu fais déjà
sans
la couverture
de fond,
des...
Ah oui. Sans lever de fond.
Ouais, t'as tout fait en bootstrap, ouais. Comme on dit. Alors, tu fais très vite, en fait, déjà, la couverture du magazine Entreprendre, quand t'as 22 ans.
Ouais.
On a même retrouvé la photo. Donc, on voit très clairement que tu avais décidé...
C'est pas moi, c'est Messier.
Non, ça, c'est Messier, mais juste en dessous de Messier, il y a donc le dossier spécial création d'entreprise avec...
Je lisais un peu large à l'époque.
Ah ben c'était la mode, hein. C'était la mode de l'époque. Ouais. Et en parallèle d'Autoreflex, tu fais l'acquisition en 2004 de l'Arc Paris, une boîte de nuit, alors que tu n'y connais rien dans les boîtes de nuit, dans ce monde-là en tout cas à l'époque. En 2008, tu te lances dans l'investissement avec ton fonds H8 Invest, via lequel tu vas racheter et sauver un gantier, un maroquinier, construire des restaurants, dont Coco à l'Opéra Garnier, participer au lancement d'une radio, bref, t'es partout. Tu réussis quasiment tous les projets dans lesquels tu te lances, au point qu'on te surnomme donc le Bébel des affaires, c'est pas rien. Tes amis parlent même de la méthode Cartier. Alors comment ça marche ? C'est quoi la formule magique de la méthode Cartier ?
Oh, tout ça est un peu évidemment exagéré, mais au final, oui, je dis toujours, on en avait parlé ensemble, mais je crois beaucoup au bon sens. Donc je fais des métiers que je comprends, que je maîtrise, et j'applique des méthodes assez simples qui consistent à mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, de s'entourer de gens... La phrase commune est toujours de dire les meilleurs, je suis pas certain, les plus volontaires en tout cas. Parfois il y a des moins bons mais beaucoup plus volontaires et des très bons paresseux, en tous les cas ça doit exister.
Donc oui, j'essaie de le mettre dans des... anglaise qui dit will beat skills, c'est-à-dire la volonté est plus forte que les compétences.
Donc, moi j'ai beaucoup de volonté, je pense que j'ai pas beaucoup de compétences, mais j'ai une volonté qui fait que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup impliqué de mon temps et de mon énergie, et donc à partir de ce moment-là, mon papa est chirurgien, je n'ai aucunement la compétence de comprendre ce type de métier ou d'être pilote d'avion. Par contre, sur des métiers qui touchent à du commerce, à du marketing, à du bon sens, je pense qu'on est tous capables de faire beaucoup de choses, et donc j'encourage d'ailleurs tous ceux qui ont des doutes, s'ils ont une volonté de faire, à y aller, parce que c'est totalement possible, j'en suis un bon exemple.
Mais alors toi, tu t'investis, on dit, ça veut dire quoi concrètement ?
Ça veut dire que je suis ou majoritaire, donc dans ce cas-là je pilote, ou j'accompagne. Et quand j'accompagne, je n'accompagne pas en passager clandestin, j'accompagne en passager au premier rang de la voiture. Voilà, et si je me sens pas utile, j'ai pas de raison d'investir, sinon je vous rembourse ou je fais autre chose. Donc j'investis, si demain j'investis à tes côtés, j'essaierai de t'aider.
Et juste après, une fois que tu investis, tu te dis, bon, il y a des choses qu'il faut améliorer. En général, qu'est-ce que tu remarques qu'il faut améliorer quand tu arrives dans une situation, quand tu rachètes justement une société, par exemple ?
Écoute, moi, j'essaye à chaque fois de faire bousculer l'approche marketing et l'image du produit ou du projet. Que je considère qu'il y a beaucoup de projets ou de produits qui sont finalement assez excellents, mais qui sont pas assez mis en valeur. Donc moi, j'ai une approche assez profonde du marketing. Et ce qu'on a fait avec Achute Collection dans l'hôtellerie, comment rendre des belles endormies un peu plus branchées et comment les faire passer de 30% de taux d'occupation à 70% dans l'hôtellerie, comment le faire dans le spectacle, comment le faire à la radio. C'est un peu les mêmes martingales. C'est beaucoup de marketing, du bon sens et essayer de trouver les ingrédients qui font qu'on rend quelque chose qui peut être super agréable, mais pas assez sexy. Donc, on rend les choses sexy.
Du marketing et de l'optimisation, enfin, de l'efficacité. Mmh. Dans le marketing, c'est donc à la fois visuel, c'est des slogans que tu changes,
c'est visuel.
Des logos que tu recrées.
Il y en a, c'est pas du génie, auto-réflexe, auto sur le net. Bon, vous voyez.
Oui, mais enfin, c'est
moins clair.
Le nom est clair.
C'est clair. Il y en a qui font des trucs compliqués. Nous, on va straight to the point.
T'as même pas besoin de tagline sous auto-réflexe. On a tout de suite compris.
On l'a déjà dans les. Voilà, exactement. Donc, non, c'est vraiment le fait de mettre de l'énergie pour savoir déjà qu'on investit dans quelque chose, on y croit. Alors il y en a, je prends des exemples comme French Bastard qui font de la boulangerie aujourd'hui, ils sont tellement bons en marketing, en image. Alors là, on suit des produits tendance que j'adore et en plus qui ont la qualité et l'image. Puis il y en a qui ont parfois la qualité mais pas l'image dans certains secteurs et d'autres qui ont l'image mais pas la qualité, il faut la faire évoluer. Voilà, c'est un investissement de bon sens, encore une fois, vraiment.
Monter un petit peu tous les paramètres, tous les paramètres de qualité,
pour qu'on trouve la bonne jauge.
Bon, alors on a fait un petit tour de tes activités, on va maintenant passer à tes passions. Une de tes passions aujourd'hui, c'est de réveiller justement les belles endormies. Ça a commencé par le mât de la Fouque, qui était à vendre. Qu'est-ce qui t'a fait plonger dans ce projet ?
Alors c'est drôle parce que le mât de la Fouque, j'y allais avec le père de ma première fiancée.
Donc en Camargue.
En Camargue, j'y allais, j'avais 22-23 ans, j'étais émerveillé. Ah bah voilà, génial. Ah bah ça me fait bizarre de voir les photos. Ouais, j'étais émerveillé par cet endroit qui était pour moi un endroit de luxe magique en plein cœur de la Camargue et j'ai eu l'extrême privilège de le racheter en 2013 quand j'ai pu le faire et en me disant je vais faire une maison de vacances de copains avec l'avantage d'être un hôtel, donc on sera quand même servi, ils auront une remise, ils seront contents, mais pas les emmerdes de la maison secondaire. Voilà. Et donc j'ai plongé dans ce lieu magique qui s'appelle le Mât de la Fouque en Camargue, qui a été le premier projet hôtelier que j'ai monté et je me suis un peu piqué au jeu de un, je suis un amoureux de la France et c'est pas un slogan, c'est vraiment je suis pas parti vers l'étranger, on est je suis pas tout seul. Heureusement, il en reste des irréductibles gaulois. Et avec l'idée d'investir. Et l'hôtellerie, ça a été un terrain de jeu où je me suis dit, il y a quand même des belles endormies magnifiques dans des régions de France à fort potentiel de tourisme. Et donc, à part de ce moment-là, à part celui-là, on s'est mis à trouver un endroit magique au Hauts-de-Loire, dans les châteaux de la Loire, qui s'appelle les Hauts-de-Loire. Et après, c'est un 4 étoiles, on le passe en 5. Il a qu'un restaurant étoilé, on met un deuxième restaurant, on met un spa avec Clarins. Voilà, on fait toujours ce même travail, un peu malin, de réveiller la belle endormie.
Oui, parce que justement, alors tu dis...
Pour faire exploser aussi les chiffres, parce qu'on fait aussi des affaires. Donc l'idée, c'est que ça marche tout ça.
C'est ça, parce que
pas que de se faire plaisir.
Tu pars avec l'idée de vouloir faire un hôtel de copains, mais enfin, tu te fais vite rattraper par tout le temps des affaires.
On en fait 10.
Voilà, tu fais 10 hôtels de copains. Donc là, soit t'as beaucoup de copains, soit vous êtes
tout le temps en vacances. J'ai pas mal de copains qui viennent souvent de chez moi et je les salue. Non, ouais. Et un peu de nouveaux copains aussi.
Bon, parce qu'il y en a
beaucoup.
Ce sont
des clients.
Donc le Mât de la Fouque, on l'a vu, mais il y a aussi l'hôtel Mont-Blanc à Chamonix.
Ouais, plus bel hôtel de Chamonix, de Haute-Savoie pour moi.
Il y a le Vieux Castillon en Provence.
Ça, c'est le Flaubert, là, qu'on voit aller à l'antenne.
Castel Bossy, à Perros-Guirec.
Ouais, devant la mer.
Il y a l'hôtel Flaubert à Trouville. Ouais. Alors, j'ai pas toute la liste, mais.
Non, mais c'est déjà pas mal. Et le prochain, qui sera le plus beau, le Macordy, qu'on ouvre dans le sud de la France en juin 2024 avec mes amis Courtin Clarins.
Très bien. Alors, t'en as un préféré, là, dans cette...
Non, faut jamais dire
c'est
ça.
Toujours le dernier. C'est comme les producteurs, les réalisateurs de films, c'est toujours le dernier, leur meilleur.
Écoute, si tu veux mon avis, non, j'aime beaucoup la montagne et j'ai un sentiment d'être au Savoyard, alors que je ne le suis pas, donc j'aime énormément Chamonix. Voilà. Parce que je m'y sens bien, c'est un endroit où je me sens bien, été comme hiver, encore plus l'été, je crois, voilà. Donc, comme j'aime la montagne, les gens aiment plus la mer, moi, j'ai l'impression que j'aime plus la montagne. Pourtant, j'ai des jolis hôtels en bord de mer, mais je suis un homme de montagne, donc, je te dirais Chamonix, tu vois, je me mouille.
Et alors, tu n'investis qu'en France, tu l'as dit, t'es un amoureux de la France, qu'est-ce qui te plaît tant en France?
Je pourrais te retourner à la question.
Ah oui, c'est moi qui pose des questions.
Non, bien sûr, mais c'est toutes les raisons. On en parlait tout à l'heure avec peu importe qui à déjeuner. Je disais, en fait, pour aucune raison du monde, à part certaines qui viendront, qui pourraient me déplaire à terme, mais j'ai envie de quitter la France. J'aime ce pays, j'aime son paysage. J'aime tout ce que représente la France. Donc à partir de ce moment-là, ni une somme d'argent, ni quoi que ce soit pourrait me faire partir de la France.
C'est les paysages, c'est aussi les gens, c'est l'état d'esprit.
C'est un ensemble. Le français est un être complexe à tous les niveaux. On le sait, mais on l'aime ce caractère français. Maintenant, pour ça que tu connais mon implication douce, mais en politique, pour parfois faire bouger des lignes, parce que voilà, on est un pays merveilleux. Beaucoup de gens qui l'ont quitté ont voulu revenir. Enfin, on le sait. Faut jamais partir pour des raisons financières. Je crois pas. Ceux qui partent à Dubaï, je leur souhaite beaucoup de courage. Voilà, j'ai rien contre Dubaï de jour. Mais voilà, je pense que on a gagné notre vie en France, on travaille en France. Voilà. Alors, je te dis pas que je finirai peut-être pas parce que j'aime les lacs, les étendues et la montagne à Montreux à 70 ans. Pour l'instant, c'est pas mon projet de vie. Voilà.
Je ne partirai pas trop loin de la France. Voilà. La France depuis Montreux.
Voilà. En tout cas, je ne partirai pas pour des raisons fiscales ou pour d'autres raisons. Voilà. J'aime mon pays et je considère qu'on doit investir dans le pays qu'on aime. Et en l'occurrence, c'est la France. Donc, je n'ai pas ouvert d'hôtel au Portugal. Je n'ai rien contre le Portugal. Il y a encore plein de zones à conquérir en France et qui mérite que des gens s'y attellent. Je me bats aussi pour la réindustrialisation. J'ai ouvert une marque qui fait quand même des fringues qui sont produites en France. Faut être complètement barjot, qui commence à fonctionner, qui s'appelle CQFD. On a retrouvé des ateliers magnifiques en France qui travaillent avec des marques connues.
Quel type d'article, CQFD ?
C'est des articles de luxe. C'est des chemises qui pourraient être vendues dans les grandes marques de luxe comme Saint Laurent. Voilà, et on fait des chemisiers. On retourne voir des artisans qui ont des usines en France. Ils me disent, vous êtes fous. Et on y va. On a déjà vendu 300 pulls, 400 chemises. Il y a des gens, c'est ce que j'ai envie de rendre dans mon pays. Et je le fais profondément. Enfin, quand tu fais ça, on te dit tu vas perdre 3 millions, t'es fou allié. Et non seulement on va essayer de s'en sortir, et en plus, je suis persuadé que c'est avec ça prendra du temps que ça va marcher. Mais il faut que les pouvoirs publics nous aident. Je me bats beaucoup pour que. Il suffit pas de dire faut réindustrialiser, il faut nous aider. Alors après, l'Europe parfois nous complique un peu la tâche, mais il faut le faire.
Alors, la vie est faite de rencontres. En fait, vous êtes trois dans tes affaires. Donc Xavier, toi et aussi Olivier Goy, qui a été diagnostiqué il y a quelques années avec la maladie de Charcot. Alors, il y a un film formidable qui explique comment il a décidé de vivre et d'aimer malgré l'ultimatum qui lui a été lancé. Ce film, il s'appelle Invincible été. Quel sentiment cette épreuve de vie t'inspire vis-à-vis de toi, des relations humaines?
Alors déjà, pour préciser, parce que Xavier Antonioz et Olivier Goy sont mes deux amis les plus proches, fondateur d'un fonds qui s'appelle 1-2-3-IM, dont je suis l'heureux et fier actionnaire. Mais pour autant, voilà, chacun mène ses affaires de son côté, à part ça, pour préciser. Après, Olivier Goy, oui, est un frère de d'amitié depuis de longues dates, et il est évident, voilà, rien que de t'en parler, c'est particulier, voilà, c'est une maladie terrible, on la connaît, c'est pas la plus drôle, je pense que c'est peut-être la pire de toutes les maladies, diagnostiquée à 47 ou 48 ans. Donc ça, et avec lui, c'est une leçon de vie absolue, c'est qu'aujourd'hui, il est plus heureux que jamais, il fait de son combat la cause de sa vie, et voilà, j'insiste, j'invite tout le monde à comprendre, à essayer de regarder, je sais pas si tu diffuses un lien, mais il y a un lien pour donner pour cette maladie, contre la maladie de Charcot, donc voilà, c'est un sujet qui nous a tous, quand t'es touché par ça de manière très proche, avec un copain qui tu skis, tu fais du tennis, tu pars en vacances tous les ans, c'est voilà, c'est beaucoup de choses qui évoluent et qui changent. On était au Japon parce que son combat le mène même au Japon où il va lever des fonds, l'accompagner. Voilà, tout devient différent et plus compliqué, mais c'est une leçon de vie incroyable que je ne souhaite à personne, mais qui pour moi est un enrichissement personnel très puissant.
Oui, et même dans cette épreuve-là, il va chercher les moyens de financer la maladie. Justement,
c'est un entrepreneur.
Entrepreneur qui ne s'arrête jamais.
Un entrepreneur, il vit en entrepreneur, sa collecte de fonds. Je sais qu'il fait avancer un nombre de choses incroyables. Il a vu le président Macron sur le remboursement des chaises roulantes qui sont un vrai sujet. Enfin, tant que t'es pas handicapé, tu te rends pas compte. Alors lui a les moyens de vivre ça de manière un tout petit peu moins complexe que d'autres, mais il se bat pour les autres et il le fait avec un courage et une exemplarité hors du commun.
Vous avez fait un voyage en Antarctique récemment?
On a fait un voyage en Antarctique il y a 2 ans, on a appris que c'était un des rêves de sa vie et on l'a emmené en Antarctique. Quand on a appris la maladie, on peut voir Xavier, Cédric, le frère de Xavier, le beau-frère d'Olivier, Olivier et moi-même, on est partis tous les quatre. 18 jours, pour un mec qui part pas beaucoup en vacances.
Oui, c'est ça, tu pars pas beaucoup
particulier,
en vacances.
C'est particulier, mais ça a été un moment absolument incroyable, et voilà, c'est un des grands souvenirs de ma vie.
Alors, Xavier Antonioz est le troisième, qui t'a donné d'ailleurs le surnom le Bébel des affaires, on y revient toujours, et Xavier a une question pour toi.
Bonjour Jean-Philippe, tu es un entrepreneur pressé et engagé. Tu fais beaucoup de choses pour notre pays, en entreprenant, mais aussi en conseillant nos dirigeants. Mais si toi, tu étais aux commandes, quelles seraient tes priorités?
Question facile.
Ouais, question qui ressemble bien à Xavier.
Alors,
je vais répondre autrement. Je suis engagé parce que ça m'intéresse, je crois que tu le sais. J'essaye très modestement, je l'ai pas mal fait pendant le Covid, d'essayer de voilà, j'ai la chance de connaître personnellement Bruno Le Maire, c'est un secret pour personne, et c'est quelqu'un d'entier, et qui a toujours envie de comprendre. Donc, d'avoir déjà l'écoute et de faire passer des bons messages me paraît suffisant. Après, si j'étais aux commandes, je ne vais pas le dévoiler aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui pourrait me plaire, clairement. Voilà, je pense que j'aurais des bonnes idées aussi pour mon pays. En tous les cas, si je peux accompagner déjà, comme je le fais aujourd'hui, des gens à amener deux, trois choses en plus positives, je le fais toujours avec bienveillance, bonhomie et en impliquant de mon temps.
Mais voilà, et bon sens.
Je voulais monter un parti politique, il le sait, il y a quelques temps, mais voilà, il y a des années qui devait s'appeler le PBS. Alors le nom est un peu ringard, mais ça voulait dire le parti du bon sens. Je pense que nos hommes politiques manquent beaucoup souvent de bon sens. Nous, les entrepreneurs, on en a quand même pas mal.
Ah, t'es obligé, sinon ça ne marche pas.
Sinon, on n'est pas là.
C'est le moment pour nous de passer à la séquence suivante. Séquence actualité, on voudrait parler de ton dernier projet en cours, Rebecca.
Amoureux inconditionnel de la France et passionné de patrimoine que vous avez décidé d'investir massivement dans le secteur de l'hôtellerie et créé il y a 10 ans H8 Collection. Vous ciblez alors des sites de caractère, les rénovent, y ajoutent des bons restaurants, des spas, décrochez 4 ou 5 étoiles et multiplient par 5 ou par 10 le chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, vous êtes présent à Chamonix, en Provence, en Bretagne, dans la Loire et en Normandie. Et votre dernier projet hôtelier verra le jour le 21 juin prochain avec une réouverture d'un hôtel de la French Riviera, le Macandy. Vous vous êtes associé avec la famille Clarin sur ce projet, un lieu de 4 ou 5 hectares. Vous avez fait travailler les entreprises et artisans de la région et l'hôtel emploiera 50 CDI de plus qu'avant. Objectif, faire un concept hôtel à la Beverly Hills Hotel, lifestyle, agréable, pour encore réveiller une belle endormie.
Précis, bravo.
C'est tout quoi un Beverly Hills Hotel ?
Bah, faut y aller. C'est un hôtel un peu qui s'appelle le Beverly Hills Hotel en Californie. En fait, c'est l'idée de pas faire. Je voulais pas faire un hôtel. Comme on peut le voir trop souvent dans le sud, c'est-à-dire du blanc et du lin. Je voulais faire un hôtel un peu coloré, un peu vivant, un peu festif, où s'allie autant le côté festif sur ce croquis, parce que Hugo Toro, que je salue, qui est un architecte hors du commun, franco-mexicain, qui nous fait ce projet, voilà, il y aura cet espace qui sera un espace de piscine vivant, festif, familial et autres, et il y aura un espace qu'on a vu tout à l'heure sur un croquis, qui sera un espace de un spa de 700 mètres carrés avec une piscine intérieure-extérieure, où là, on sera plus dans le calme. Je voulais créer un lieu de vie assez unique, assez magique en France. J'en ai vu des concepts comme ça. Le mot n'est pas celui que je préfère, mais j'aime bien le mot resort quand même, qui permet de comprendre qu'un père de famille avec ses enfants sera heureux, un couple sera heureux, un célibataire qui a envie de se reposer sera heureux. Voilà. Donc, c'est un projet pour lequel j'ai beaucoup d'ambition, qui m'a pris 2 ans et demi, qu'on est censé ouvrir le 21 juin 2024, et qui va, j'espère, faire partie, voilà, des joyaux de notre beau patrimoine français.
Bon, les amis, ils seront heureux aussi, c'est encore un hôtel
bien
de copains.
Bien sûr, les amis auront une remise également, Frédéric.
Je note. C'est le moment pour nous de passer à la séquence rapide de cette émission, le Quizzella.
Ok. C'est bon en marketing.
Quizzella, oui, Quizzella, c'est du marketing aussi. Donc la séquence Quizzella, c'est quoi ? C'est un quiz assez rapide. Je te pose des questions, il faut répondre rapidement.
Okay.
Ça va vite, c'est simple, hein, mais il faut être réactif. Alors, c'est parti, t'es prêt ?
Ready.
Top chrono. Ton hôtel préféré ?
Chamonix, Mont Blanc.
Tu n'aimes pas prendre des vacances, mais si tu es obligé, tu pars où ?
Chamonix, Mont Blanc.
Toujours.
C'est facile, c'est gratuit.
C'est facile. Si tu devais résumer l'esprit français en un mot, attention.
L'esprit français en un mot, résilience.
La qualité la plus importante chez tes collaborateurs.
L'honnêteté.
Le secret de ta bonne humeur.
L'optimisme.
Ta potion magique à toi.
Le travail.
Ta kryptonite à toi, c'est-à-dire ce qui t'affaiblit, comme Superman.
J'avais compris, j'ai déjà vu Superman. Ce qui m'affaiblit, pas grand-chose.
Pas grand-chose. Si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, tu aurais fait quoi ?
La même chose.
Qu'est-ce que tu aimerais dire au Jean-Philippe de 14 ans ?
Ce que j'aimerais lui dire, c'est en fait ce que ma mère me dit tous les ans à Noël en me faisant un petit mot à la 87 ans, maman d'amour, de m'écrire « Chaque année, t'es exactement là où tu voulais être ». C'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire.
Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui ?
Bon, je ne sais pas, le prochain, l'ouverture de mon prochain hôtel.
Le prochain, toujours.
Non, mais bien sûr. Bah,
Qu'est-ce que l'esprit pionnier pour toi ?
T'en fais partie. C'est les gens qui se réveillent avec l'envie de faire bouger les choses. C'est pas plus compliqué que ça d'être un pionnier. C'est juste de se bouger et de regarder devant.
Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains sur cette planète regardaient les pionniers aujourd'hui, ce qui n'est pas loin d'être le cas, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ?
Bah, s'ils étaient français, je leur dirais, si un jour je m'engage en politique, votez pour moi. C'est pas con, non ?
Non, c'est vrai, c'est une bonne manière. Il faut profiter de la tribune
tout de suite.
Ça se commence, ça se prépare tôt.
Hein. Bien sûr.
Alors, on se quitte sur cette chanson que tu as choisie, que tu as sélectionnée, de Guns N' Roses, Live and Let Die.
Pourquoi ?
Bah
parce que t'as tout dans le titre, voilà. Faut vivre et laisser mourir les choses dont on n'a plus besoin, les mauvais souvenirs, tout. C'est voilà, c'est un hymne à la vie. Et j'adorais Guns N' Roses quand j'étais petit et j'aime toujours aujourd'hui. Et je trouve que le titre de cette chanson qui vient des Beatles, hein, Live and Let Die, est assez clair, est une bonne leçon de vie. Vivre et laisser mourir, James Bond.
Merci beaucoup Jean-Philippe.
Merci à toi,
de nous avoir partagé ton esprit pionnier, tes apprentissages, tes émotions. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour le pitch.
BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch.
Les pionniers continuent avec la séquence pitch sur le plateau aujourd'hui avec Rebecca. Nous recevons Eric Salomon, fondateur de Time to Pitch.
Bonjour.
Bonjour Eric. Et Audrey Soussan, partenaire du fonds d'investissement Ventech et de AFI. Bonjour Audrey.
Bonjour Fred.
Alors chaque semaine, les pitchers viennent présenter leurs idées, leurs projets, leurs sociétés et nous leur donnons quelques conseils. Vous pouvez vous aussi venir présenter votre société. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de candidater en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran ou bien en allant tout simplement sur le site de l'émission sur BFM Business.
Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
Et aujourd'hui, c'est une pitcheuse très spéciale qu'on reçoit dans les pionniers, Fred.
Oui, c'est Laure Wagner, la toute première collaboratrice de Blablacar. Donc, on a travaillé ensemble depuis plus de 10 ans. Bonjour, Laure.
Bonjour.
Voilà, c'est beaucoup d'émotions aussi pour moi de voir...
C'est un peu une consécration.
Oui, de voir que quand on crée une société et qu'on a des collaborateurs, ensuite, ces collaborateurs-là vont créer des sociétés à leur tour. Donc, c'est une forme de transmission très agréable. Et je suis très, très fier, très heureux, Laure, de pouvoir te recevoir sur le plateau.
Merci.
Bon, ben, il n'y a plus qu'à.
Il n'y a plus
qu'à. C'est parti. Laure, soyez la bienvenue sur le plateau des pionniers. Vous êtes donc maintenant la fondatrice d'un kilomètre à pied. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Eric, qui sera attentif à votre pitch, devant Audrey, qui sera attentive au marché de votre secteur. Et on les laissera ensuite délibérer pour vous noter de 1 à 10. Est-ce que vous êtes prête?
Je suis prête.
Et ben, alors, c'est parti. Top chrono, c'est parti.
L'absentéisme et le turnover coûtent des millions aux employeurs. Et il s'avère que les trajets domicile, travail, pénibles et coûteux sont en partie responsables. Avec mon associé, on a créé le premier logiciel RH qui aide les employeurs multisites à identifier tous leurs salariés qui pourraient faire le même travail plus près de chez eux. Je vous donne un exemple concret. Un salarié de Auchan qui avait été embauché à 1 heure de chez lui, grâce à notre logiciel, il a pu être réaffecté à 1 km à pied de chez lui. 1 km à pied, c'est le nom de notre logiciel et on travaille déjà pour Auchan, mais aussi Lidl, Point P, Transilien SNCF, les crèches Petit Chaperon Rouge et ça n'est que le début puisque la moitié des actifs français travaillent pour des employeurs multisites. Concrètement, on a 3 modules. Un module de recrutement interne, donc à chaque fois qu'un poste se libère sur un de leurs sites, les recruteurs peuvent voir la liste des salariés qui seraient super contents de gagner 40 à 60 minutes par jour et l'équivalent d'un 13e mois par an. On a aussi un module qui permet d'enregistrer les souhaits de mobilité, donc quand un salarié déménage par exemple, il peut souhaiter être muté sur un autre site. Et on a un module qui permet de voir tous les échanges à poste égal. Les bénéfices pour les employeurs, c'est de réduire l'absentéisme, réduire le turnover, faire des heureux tout en évitant du CO2. Merci.
Merci beaucoup, Laure. Merci pour ce pitch. Est-ce que notre jury a des points à éclaircir avant qu'on vous laisse délibérer?
Donc, vous êtes connecté avec les solutions RH des sociétés?
Alors, pas encore. Pour l'instant, nos clients font un extrait et ils le mettent de manière sécurisée chez nous. Mais c'est sur notre roadmap, effectivement, de se connecter en API au logiciel RH.
Et comment vous vous positionnez par rapport aux solutions de mobilité interne plus larges qui ne sont pas que sur la mobilité géographique?
Alors, pour l'instant, nous, on ne fait que la mobilité géographique. Cela dit, on demande aussi, et c'est sur notre roadmap, de pouvoir demander un tel souhaite aller sur tel site et potentiellement avec une évolution de carrière. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on peut rentrer chez nous. Mais c'est vrai qu'on s'adresse plutôt aux employés de terrain plutôt qu'aux salariés du siège qui vont plus être sur une mobilité interne plutôt verticale de carrière. Nous, c'est plutôt géographique.
Fred, une question?
Oui, j'ai une question sur la tarification. Justement, ça coûte combien aux entreprises de vous utiliser?
Alors, je ne vais pas révéler le prix ici, mais c'est un prix par salarié et par an ou un prix par salarié par mois d'ailleurs. Donc, on peut être soit en MRR, soit en ARR.
D'accord, c'est pas cher donc, c'est ça la réponse.
Alors la réponse surtout c'est que ça vaut carrément le coup puisqu'on a un ROI qui est vraiment très intéressant pour les employeurs.
Et moi j'aurais une autre question si Rebecca accepte de me laisser la parole. Ton utilisateur principal, est-ce que c'est le responsable RSE, le DRH ou le business manager qui cherche la productivité de ses salariés?
On a deux personas, on a le recruteur qui lui va vraiment, à chaque fois qu'un poste se libère, va vraiment recruter, il est en chasse interne, donc on est en réalité le premier aussi outil de chasse interne, ça se fait très peu finalement. Et on a l'équipe RH, plutôt qualité de vie au travail, qui va avoir vent de justement un déménagement, quelqu'un qui est dans une situation qui n'est pas bien, et donc qui, où il faut organiser une mobilité. Et donc ces deux personnes-là se connectent sur notre site.
Bon bah il est maintenant temps de vous laisser délibérer.
On va délibérer.
Tranquillement.
Merci.
Venez avec
beaucoup,
moi alors.
À tout de suite.
Merci Laure. Laure, vous venez à l'instant de pitcher. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes contente de vous? Est-ce que vous avez des regrets?
Non, plutôt contente. J'ai fait le pitch que j'avais révisé, donc je suis contente.
Est-ce que vous appréhendez la suite, le débrief, certaines notes, certains coachs peut-être?
J'appréhende pas, mais je suis curieuse d'avoir leur feedback parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je pitch, ça révèle en fait des potentiellement des incompréhensions, des objections, donc ça m'aide aussi à améliorer le pitch pour les prochaines fois.
Bon bah il n'y a plus qu'à découvrir les notes de notre jury. C'est parti, on retourne en plateau. Nous sommes de retour en plateau avec Laure pour découvrir les notes de notre jury. Attention, c'est parti. 3, 2... Bah, vous avez été trop vite. C'est pas grave. C'est un 10 pour Eric pour le pitch, un 7 pour le marché du secteur pour Audrey et enfin un 9 pour le produit pour Fred. Fred, c'était pas très objectif là, si?
Ah bah si, parce que c'est quand même pas du tout le même produit que, bon, qu'un Blablacar. C'est
laissera,
un nouveau produit que Laure a inventé.
On te laissera ton débrief. On commence avec toi, Eric. 10 pour le pitch, 10 sur 10. C'est la première fois, je crois, dans l'histoire des pitchs. Que...
C'est la première fois. Je tiens à dire que ça n'a rien à voir avec le fait que tu connaisses mon patron. que les choses soient claires. C'est parce que c'est un excellent pitch et que j'ai que des compliments à te faire. Et Rebecca, tu disais t'es pas très objectif. Non. On n'est pas très objectif, on est très subjectif et on doit revendiquer ça parce qu'en réalité, tu es allé toucher tous nos fibres, toutes nos émotions et nos aspirations. Tu as commencé exactement comme il faut le commencer. Tu as dit où était le problème. Et enfin, quelqu'un qui parle du client en premier, la raison d'être de ta boîte. Et donc, tu nous as mis le méchant au milieu. Et puis, juste après, tu nous as amené ta boîte et ta boîte, c'était le super-héros. Et donc, on avait le scénario, on avait le méchant, le super-héros. Et ça pouvait démarrer. Génial. Donc ça démarre. Et là, tu nous donnes des exemples concrets. Merci. Et donc on voit les choses. On a des images mentales derrière l'écran. Ils vont voir ce que tu fais très concrètement. Et d'ailleurs, tu te réécouteras. Peut-être d'autres te réécouteront. Tu dis concrètement. Ouais. Et c'est vachement bien. Parce que c'est ce qu'on appelle un trigger narratif. Quand tu dis concrètement, les gens, ça les réveille un peu. Parce qu'ils attendent de voir les exemples. Et là, tu donnes les trois modules, génial. Et la fin est formidable, pourquoi? Parce qu'on est sur ces trois modules, on ne va pas rester sur du très concret, très, très opérationnel. On doit terminer en haut, c'est comme une petite pièce de théâtre, cette histoire. Et toi, tu vas nous emmener en haut en disant il y a plus d'heureux, il y a moins de CO2, en plus ça rime.
Ça rime.
Et tu termines avec de l'aspirationnel, ce qui est formidable. Et donc, c'est un pitch parfait. Merci.
Ben, merci.
Audrey, un 7 sur 10 pour le marché du secteur, explique-nous.
Alors, pourquoi j'ai mis 7 sur 10 ? Je connais bien l'univers du RH. On a des énormes logiciels de SIRH qui sont des logiciels mondiaux. Je dirais pas qu'il y a un duopole, mais bon, il y a 4 gros leaders qui sortent du marché, qui équipent les très très grosses sociétés. Ensuite, il y a des leaders d'une sous-catégorie de marché qui est la mobilité interne, et donc il y a des logiciels spécialisés dans la mobilité interne, ou bien les mastodons ont leur feature de mobilité interne, ou bien il y a des solutions dédiées à la mobilité interne. Et toi, tu arrives encore avec une sous-catégorie qui est au sein de la mobilité interne, je regarde que la mobilité interne géographique. Donc moi, ce qui pourrait me faire peur, c'est de me dire, tous ceux qui sont au-dessus de toi et qui ont, eux, déjà accès aux données SIRH, dont tu as besoin toi aussi, et auxquelles tu vas te connecter, ils pourraient soit décider de te copier et de lancer la même idée en rajoutant une feature à leur proposition de valeur, soit ils pourraient décider de
nous racheter.
De te croquer, exactement, j'allais y venir. Ce que j'ai bien aimé dans ta réponse à ma question, c'est que tu envisages potentiellement de remonter la chaîne de valeur et finalement de commencer comme un cheval de Troie par la proximité et puis peut-être de remonter sur d'autres vocations au sein de la mobilité interne. Et donc là, ça m'ouvre d'autres perspectives, je vois beaucoup plus d'ambition et ça me ravit.
Et enfin, Fred, je rappelle que tu notes le produit. 9 sur 10 pour le produit.
Oui, 9 sur 10. J'aurais pu mettre 10 sur 10, mais en fait, C'est un très bon concept. C'est un concept en plus qui est international. Toi, ça passe à l'échelle. J'aime bien. Au-delà du pitch où Eric a déjà mis 10 sur 10, mais je voulais juste préciser une chose, c'est qu'on sait maintenant que Laure s'est entraînée dans le couloir avec toutes les personnes qu'elle a croisées et qu'elle a pitché à peu près tout le monde sur sa route. Donc, ce qui explique qu'en arrivant en plateau, eh bien,
et on nous confirme en régie.
En régie, il nous confirme qu'effectivement, Laure a pitché tout le monde. Donc, elle a eu son 10 sur 10. Donc, mais sur le produit aussi, c'était excellent. C'est un produit très, très prometteur. Bon, en plus, évidemment, dans l'équation, quand on juge un produit, on juge aussi sa capacité à s'adapter à son marché. Et là, je fais confiance à Laure, qui est une grande oreille de ses clients. Je le sais, puisqu'on a travaillé plus de 10 ans ensemble, qui va être capable. Alors, mais là, c'est subjectif aussi. Je reviens à ce que disait Eric. C'est vrai qu'il faut aussi être subjectif. Laure, je sais qu'elle saura écouter ses clients pour remonter la chaîne des besoins et faire en sorte qu'un produit soit indispensable à ses clients.
Je te sens ému, Fred.
Ah oui, écoute, attends, c'est voilà, voir une société qui démarre comme ça avec quelqu'un avec qui on a travaillé pendant 10 ans et qui on a construit Blablacar, c'est très émouvant.
Il y avait la PayPal Mafia, maintenant il y a la Blablacar Mafia.
Bravo.
Belle conclusion, merci Audrey, merci beaucoup Laure.
Merci à tous.
Pour un kilomètre à pied, merci d'être venu aujourd'hui. Très bonne continuation. Et c'est l'heure d'accueillir notre deuxième pitcher du jour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Calice Judy, vous êtes le fondateur d'Exode.
C'est ça.
Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Eric, qui sera attentif à votre pitch. Audrey, au marché de votre secteur. Et évidemment, Fred, à votre produit. Et on les laissera ensuite délibérer pour vous noter de 1 à 10. Est-ce que vous êtes prêts ?
Je suis prêt.
Et bien, top chrono, c'est parti.
Ok. Alors, le problème des déodorants aujourd'hui, c'est qu'ils sont soit bio, mais pas efficaces, soit efficaces, mais nocifs. Il y a 3 ans, je suis tombé sur une étude scientifique qui était assez dingue, qui montrait que l'huile de nigel détruit la bactérie responsable des mauvaises odeurs, le staphylocoque hominis. L'huile de nigel, c'est une huile qui est extrêmement connue en Orient, mais très peu connue en Occident, alors qu'elle a des vertus sur la santé et sur la peau qui sont tout simplement incroyables. Du coup, j'ai repris une vieille recette de ma tante et j'y ai ajouté de l'huile de nigel. Du coup, j'ai créé le premier déodorant à l'huile de nigel et c'est une tuerie, il est extrêmement efficace. Concrètement, il y a uniquement 5 ingrédients à l'intérieur. Il va détruire les mauvaises odeurs de transpiration grâce à l'huile de nigel. Il va régénérer la peau en profondeur et il bloque pas la transpiration, mais il l'absorbe comme une éponge grâce à la fécule de maïs à l'intérieur. Un petit pot comme ça, pour l'utilisation, il suffit simplement d'ouvrir le pot, de prendre une petite noisette avec son doigt et de venir l'étaler directement sous l'aisselle. La peau l'absorbe instantanément. Un petit pot comme ça, ça dure 3 mois et ça coûte uniquement 12,90€, soit à peu près 4€ par mois pour un déodorant super efficace. On a 4 parfums, le parfum agrumes, le parfum musc, le parfum coco et le parfum vanille. En 2023, on a vendu près de 100 000 unités. J'ai dépassé mon premier 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On a des clients dans toute la France qui nous en demandent. Et aujourd'hui, on a une problématique. Tout le monde veut voir nos déodorants proches de chez eux parce qu'ils en ont marre de payer les frais de port. Donc 2024, c'est go sur le B2B.
Merci, merci Calice pour Exode. Est-ce que notre jury a des questions avant qu'on vous laisse noter cette prestation ? Audrey ?
Go pour le B2B, ça m'ouvre la porte de la question du go-to-market. Donc aujourd'hui, tu distribues en direct via ton site internet ?
Alors, l'endroit sur lequel on vend le plus de déodorants, ça représente 98% du chiffre d'affaires, c'est bien sûr notre site internet. En fait, l'objectif, si je peux détailler un peu plus, c'est que l'objectif était avant tout, en 2023, de se faire connaître en ligne, parce que moi qui suis un ancien commercial, je m'étais pris beaucoup de portes lorsque j'ai démarré l'aventure entrepreneuriale. On me disait, si t'es pas connu, ton produit va pas se vendre. Donc concrètement, j'ai pris en compte ce conseil. J'ai décidé de me faire connaître en créant une communauté sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a à peu près 60 000 abonnés. On s'est vu par pas mal de monde. Et donc, le fait qu'on ait un produit aussi qui soit très efficace, ça a permis vraiment de faciliter la constitution de cette communauté. Et maintenant qu'on est connu, le but, c'est justement d'aller ouvrir les portes du B2B, vu qu'on a un petit nom.
B2B, c'est retail, c'est ça que tu veux dire?
C'est ça, B2B, c'est retail. Donc, c'est du B2B2C, c'est-à-dire qu'on vise avant tout les enseignes qui vont revendre nos produits, notamment la pharmacie et la parapharmacie, où on a une énorme demande là-bas.
D'autres questions?
Oui, moi j'ai deux petites questions. La première sur le nom du produit, pourquoi il s'appelle Exode?
Alors Exode, parce que le but c'est de quitter les produits nocifs pour faire un exode vers le naturel. Et cet exode, on peut le faire uniquement avec des produits efficaces.
D'accord, je ne l'ai pas entendu, peut-être ça peut faire partie du narratif. Et autrement, je crois que j'avais lu dans un pitch ou je ne sais plus où, une histoire avec Cléopâtre.
Alors, l'huile de Nigel faisait partie de la routine beauté de Cléopâtre.
Ah, voilà, c'est ça.
Cléopâtre et Néfertiti, en fait. Elles étaient considérées comme les plus belles femmes de l'Égypte antique, en tout cas à l'époque. Et donc, Cléopâtre, en plus d'utiliser du lait d'anès et du safran, utilisait aussi de l'huile de Nigel pour parfaire son teint.
Ah, ça nous fait voyager, ça. Tu peux le mettre dans le pitch, hein, je pense. Hein.
C'est vrai que j'y avais pas pensé.
Si je reviens sur Terre, les produits sont fabriqués où ?
Alors, les produits sont fabriqués, de base, ils étaient fabriqués chez moi, dans ma cuisine.
D'accord.
Mais comme la réglementation l'interdit, aujourd'hui, je fais sous-traiter à un laboratoire à taille familiale en région parisienne.
Bon, il n'y a plus qu'à vous laisser délibérer. Calice, venez avec moi.
Merci beaucoup.
À tout de suite.
Merci. Calice, vous venez à l'instant de pitcher devant nos coachs. Est-ce que vous êtes content ? Est-ce que ça va ?
Ben, franchement, ça va super. L'émotion est à son paroxysme, puisque je ne m'attendais pas à... Même là, j'arrive plus trop à parler, mais non, vraiment, c'était super. Ils ont été vraiment très attentifs à ce que je disais. Ils ont posé des bonnes questions. Et pour un premier pitch, je suis très satisfait de comment ça s'est déroulé.
Est-ce que vous appréhendez là maintenant le retour en plateau, les notes, les coachs ? Est-ce qu'il y a certains coachs que vous craignez plus que d'autres ?
Alors, il y a Monsieur Salomon que j'ai pas entendu me poser de questions, donc je sais pas encore quel sera son retour. Sinon, non, pas trop d'appréhension. Je sais qu'au bout d'un moment, j'ai eu l'impression d'avoir un peu bégayé, fait un peu des faux mouvements, mais sinon, non, pas tant que ça. Peut-être d'autres bonnes questions, j'espère.
Bon, moi, en tout cas, je l'ai pas entendu. On va voir ce qu'en pensent nos coachs. C'est parti, on retourne en plateau. Nous sommes de retour en plateau avec Calice pour découvrir les notes de notre jury sur Exode et sur le pitch de Calice. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est un 8 sur 10 pour Eric pour le pitch, un 6 pour Audrey pour le marché du secteur et enfin un 7 pour Fred pour le produit. Eric, je te laisse commencer comme d'habitude. 8 sur 10 pour le pitch.
En toute transparence, je ne mets pas 8 à ton pitch. En toute transparence, je mets 8 à Calice. C'est à toi que je mets 8, parce que tu dégages grave, t'adore, on a envie que t'aies raison, on a envie que ça soit vrai et tout. Et en même temps, je voudrais te dire quelque chose de très important, t'es ton pire ennemi. Pourquoi ? Je me disais, il faut que ce soit moins vendeur. Donc tu nous as fait le truc, et je te montre, et je tata. On avait l'impression d'un vendeur en train de vendre ses produits, plus que quelqu'un qui nous parlait de son pitch. Donc, le pitch était plutôt bon. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est peut-être que l'huile de Nigel, peut-être que tu peux la mettre un peu mieux en scène. Ça nous vient du passé, ça fait partie de l'histoire. Tu nous parles de Cléopâtre, Néfertiti. Peut-être ça peut donner un petit peu de véracité et lui donner l'importance. Mais ce sur quoi je pense qu'il faut que tu progresses, c'est d'être dans un ton plus conversationnel et moins vendeur. Et quand tu as dit « Ah, je suis un ancien commercial », je suis ça y est. Ça y est, je l'ai vu, il a enlevé le masque. C'est l'ancien commercial qui parle. Donc, t'es le mec super sympa. On a envie que t'aies raison, on a envie de dire oui. Mais faut que tu la joues un peu plus conversationnelle et moins je te vends mon truc. Ça, pour moi, c'est le plus important. Sur le reste, j'ai envie de te dire, c'était très bien, comment ça marche. Déjà 100 000, 1 million, donc de la réassurance. Ah, je me dis, s'il fait 1 million de chiffre d'affaires, c'est quand même le truc existe. Vachement bien. T'amènes tes produits, tu nous les montres, tu nous sors l'huile de Nigel. Ta tante ou ta grand-mère, ta tante, la tuerie, tout ça c'est bien. Tout ça, ça marchait bien. Il faut juste que dans la façon de le faire, tu m'enlèves le commercial et tu me donnes le mec qui me parle normalement. Et là, nickel. Et 8, parce qu'il y a du soleil en toi, ça nous sort, ça nous illumine. Et moi, je t'adorais.
Merci beaucoup, c'est très très gentil, ça me va tout droit au cœur.
Audrey, je vois plus ta pancarte.
J'avais mis 6
pour le marché du secteur.
Oui. Alors, Exode, j'ai deux petits reproches à lui faire et j'ai eu un coup de cœur sur un petit point. Je m'explique. Les deux reproches que je peux faire, c'est ce qu'on appelle un red ocean. Il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. Et évidemment, le marché potentiel, il est immense. Mais c'est pas tant le fait qu'il y ait d'autres marques sur le marché qui m'ennuie. C'est, moi, je pense, coût d'acquisition. T'as un site internet, j'imagine que tu dois dépenser des Google AdWords, tu dois dépenser de l'argent en marketing. Et je me dis, vu la concurrence, j'ai peur que tu dépenses trop et que tes marges soient réduites. Ça, c'est mon premier point un petit peu négatif. Le deuxième point un peu négatif, c'est tu n'as qu'un SKU, ou en tout cas, tu n'as qu'une catégorie de produits.
Qu'un quoi, excuse-moi Audrey.
En fait, une seule gamme de produits.
SKU, c'est... Single.
Key unit.
Key unit.
Ce qui m'embête un peu avec ça, c'est qu'une fois que tu as acquis justement le consommateur et que tu as peut-être dépensé un peu d'argent en marketing pour l'acquérir, eh ben il faut l'amortir pour faire du cross-sell. Et donc, si tu me proposais plusieurs autres gammes, moi, dans ma tête, je me dirais, OK, il a peut-être dépensé beaucoup, mais il le cross-sell. Donc, OK, il vient sur le déodorant, mais derrière, il va lui vendre du parfum, du savon, je sais pas, peut-être du linge de maison, enfin, d'autres choses avec cette huile spécifique. Et là, je me dirais, OK, ça a peut-être coûté cher en acquisition, mais derrière, il amortit. Mon coup de cœur maintenant, c'est la pharmacie. Dommage que tu ne l'aies pas dit directement dans le pitch. Tout le monde fonce sur le retail, la grande distribution, ça écrase les marges. Il y a une concurrence énorme, on se retrouve face à face dans les rayons avec des concurrents directs. La pharmacie, tout de suite, ça donne, ça assoit beaucoup de crédibilité. C'est plus dur d'y rentrer, plus compliqué, la barrière à l'entrée est plus compliquée. C'est un bon positionnement.
Merci beaucoup.
Et enfin, Fred, pour le produit, tu as mis 7 sur 10.
Oui, j'ai mis 7 sur 10. Alors, j'ai quand même supposé que le produit... parce que Calice est très bon vendeur, donc je l'ai cru. j'ai supposé que le produit était efficace. Après, voilà, c'est 7 et c'est pas 10, parce que je pense que je tiens compte aussi du fait que c'est un produit dans une galaxie d'autres produits. C'est compliqué de se démarquer. Alors voilà, après, tu nous as présenté un produit qui est type déodorant, mais effectivement, je pense que avec une marque comme ça, tu ne vas pas pouvoir faire une seule chose. Il va falloir qu'effectivement, tu penses avec une logique de gamme de produits différents et que tu vas pouvoir les aligner. Donc aujourd'hui, on a effectivement un produit qui est unique. On espère qu'il est bien. Et à côté, que tu vas lui mettre des petites frères et des petites sœurs pour élargir la gamme. Bah. Avec une belle marque comme Exode, c'est joli. Tu as tous les droits à déposer pour utiliser Exode dans
bien
ton
sûr.
Domaine.
Ouais. Bien sûr. En fait, si je peux rajouter juste ça, je ne l'ai pas précisé parce que c'est vrai qu'on est surtout connu pour le déodorant, mais récemment, on a sorti un baume à lèvres à l'huile de Nigel, on vend du miel de Nigel, de l'huile de Nigel, on a sorti aussi une gamme douche à base d'huile de Nigel avec un shampoing, un après-shampoing, un gel douche. Le but, c'est vraiment de créer une atmosphère autour de l'huile de Nigel parce que cette huile, elle est magique et elle a des bienfaits, en fait, dans tout type de cosmétiques.
D'accord.
Je ne l'avais pas précisé parce que j'avais fumé une
trappe. C'est fait maintenant et donc on va changer nos notes.
Merci énormément.
Merci Calice, merci d'être venu nous présenter Exode et très très bonne continuation. Hein.
Merci vous à vous, merci beaucoup.
Calice. Que du bien pour la suite.
Vous êtes quatre, est-ce que je peux vous offrir un déodorant chacun?
C'est adorable. Même,
c'est parfait. On verra peut-être ça juste après le...
On va pas les tester tout de suite, mais on les testera.
Tout de suite,
Calice.
Merci beaucoup.
Quoique. C'est la fin de cette émission. Et oui, si vous aussi, vous voulez venir pitcher ou nous suggérer un invité, vous pouvez le faire en scannant le QR code qui est en train de s'afficher sur votre écran ou alors nous écrire à lespionniers@bfmbusiness.fr.
On sera ravis de vous accueillir sur le plateau. Vous pouvez aussi suivre les coulisses de l'émission en tapant tout simplement Les Pionniers chez Fred Mazzella un petit peu partout, sur Internet, en replay, en podcast. Vous nous trouverez partout. Merci beaucoup Rebecca.
Merci Fred.
Merci Eric.
Merci.
Merci Audrey.
Merci
Une très très bonne session du pitch cette semaine. Et quant à nous, on se retrouve justement la semaine prochaine.
Les Pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.